Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, les organisateurs, aussi bien sur le plan scientifique que du point de vue le plus pratique, qui font de ce colloque un beau colloque, je crois. Alors, j'ai une accroche toute faite pour mon sujet, hein, puisque l'ouverture imminente de la COP21 nous amène à tourner nos regards vers les enjeux écologiques et de la relation à la nature de nos sociétés. Je pourrais aussi citer comme accroche, bien sûr, la récente encyclique du pape, l'actualité de la recherche autour des développements de courants de l'écologie humaine dans le catholicisme. Bref, tout ça signifie le fait que les relations entre écologie et catholicisme sont un champ foisonnant. Et je fais ici, je fais un clin d'œil à mon collègue et complice Ludovic Bertina, qui sur ces sujets aussi est spécialiste. Je vous propose d'accepter le titre de cette session, donc recomposition des mondes religieux et convictionnels, sous une double facette. D'abord, essayer de voir comment des enjeux contemporains peuvent bénéficier des sciences religieuses pour être compris. Et à l'inverse, comment les mondes religieux se recomposent face aux enjeux contemporains. Alors, le champ de ma présentation, c'est, vous l'aurez compris, l'écologie, c'est-à-dire entendu ici un sens très large du rapport à la nature, l'écologie comme enjeu contemporain, et d'une part, et d'autre part, le catholicisme comme religion pratiquée ou héritée. Le terrain sur lequel je m'appuie, c'est mon terrain d'enquête pour mon travail de thèse, donc l'étude des agriculteurs paysans français, c'est-à-dire des agriculteurs soucieux de respecter la nature et de promouvoir une agriculture alternative. Ce que je propose de faire, c'est donc d'interroger la relation à la nature à travers la relation au catholicisme, et donc de comprendre la religion comme histoire et héritage. Et je précise donc que dans l'ensemble de mon enquête, tous les gens n'étaient pas catholiques, mais que je m'intéresserai ici particulièrement aux gens les plus touchés par le catholicisme. Je vais donc défendre trois idées. La première, c'est la postérité d'un certain christianisme de gauche lié à l'action catholique, qui se retrouve selon moi dans l'agriculture paysanne et plus généralement dans l'écologie. Seconde idée que j'aimerais défendre, c'est que l'écologie est parcourue de tensions et que ces tensions sont liées souvent à la compréhension de la nature, avec deux pôles ici dans cette compréhension de la nature, comprendre la nature comme principe normatif et ou comme principe d'ouverture. Enfin, je voudrais revenir sur l'idée que chez les catholiques et chez les personnes influencées par le catholicisme, ces tensions renvoient aussi à des tensions dans l'héritage vis-à-vis de la religion. Donc après un retour sur les sources d'une vision catholique de la nature, j'aimerais détailler quelques parcours selon lesquels l'héritage catholique touche les agriculteurs paysans que j'ai rencontrés et formuler finalement quelques remarques sur le lien entre nature, croyance et vérité. Projet ambitieux que je vais essayer de faire dans le temps imparti. Donc, je trouve ça utile de revenir aux sources d'une vision catholique de la nature telle qu'elle se décline au champ agricole français. Donc, la pensée catholique se renouvelle en France de manière décisive entre 1930 et 1960, hein, depuis les mouvements personnalistes jusqu'à Vatican II, la signification et l'expression de la foi évoluent. Ces transformations ont une influence importante sur le monde paysan français, avec deux vecteurs clés, deux institutions clés qui se font les vecteurs de ces transformations philosophiques. C'est l'association économie-humanisme, et puis c'est bien sûr l'action catholique, avec la jeunesse agricole catholique, qui en 1950 touche environ un quart des jeunes ruraux en France. Et donc, la modernisation des campagnes qui se déploie de manière extensive en France à partir des années 50 est liée à la transformation de l'économie symbolique des agriculteurs, donc en partie à ces transformations religieuses, selon moi. J'aimerais maintenant revenir sur la relation à la nature en développant trois éléments importants qu'on peut distinguer dans les propositions intellectuelles du catholicisme dans cette période de l'après-guerre jusque dans les années 70. D'abord, première idée importante, c'est celle, premier opérateur intellectuel, on pourrait dire important, c'est l'idée d'ordonnancement des besoins. Alors, Emmanuel Mounier, déjà en 1930, dans son livre, dans un texte qui a été compilé dans le livre « Refaire la Renaissance », expliquait que le spirituel commande le politique et l'économique. Il formulait l'idée d'une éthique des besoins où les besoins sont ordonnés entre besoins vitaux d'une part et besoins superflus d'autre part. On retrouve dans le mouvement économie-humanisme la même idée et en particulier Jean-Marie Gatron, donc membre d'économie-humanisme, spécialiste du monde rural, agronome, décline cette idée à l'agriculture dans son ouvrage qui est publié sous la forme d'articles, d'abord dans la revue Économie Humanisme, qui s'appelle « Le pain et l'or ». Il oppose, lui, profit et besoin, et il plaide pour une économie ordonnée, ordonnée en fonction des besoins ordonnés de l'homme. Le travail pour le pain doit passer avant la lutte pour l'or. Alors ce qu'on voit ici, c'est une logique d'étalonnage des besoins qui se fait dans une confiance envers la biologie. La proximité de la nature en tant que biologie est gage d'authenticité. Et donc, comme saint Augustin, Gatron souligne que les moyens pour vivre constituent à l'origine un don de Dieu. Donc, les vrais besoins sont ceux qu'on peut naturellement satisfaire. L'agriculture devient une sphère productive à partir de laquelle ordonner toute l'économie, puisque c'est la sphère la plus proche de la nature. Deux idées ici, donc. La nature nous renseigne sur l'authentique, sur le vrai. Elle est la base d'un ordre juste, à travers notamment sa résistance à l'effet dissociateur de l'artifice, monétaire ou technique. Et de deuxième idée, c'est que cette distinction s'opère dans l'ordre des finalités et non des moyens. Pour ces penseurs, il doit y avoir un progrès technique, et la modernité doit être acceptée pour aider l'homme à satisfaire ses besoins naturels. La nature est donc vue comme un horizon spirituel. Et on peut souligner d'ailleurs qu'on retrouve la même logique, les mêmes développements intellectuels dans l'influence que l'Action catholique a eue sur la CFDT et dans le rapprochement de la CFDT avec des thèses aussi écologistes. Et ça, c'est tout le travail d'un jeune historien qui s'appelle Renaud Becot. Deuxième idée, après cet ordonnement des besoins, deuxième idée, proposition intellectuelle importante de l'époque, c'est la tension entre deux visions de la nature, et notamment la vision agrarienne de la nature, qui est dominante jusqu'au début des années 60 dans le monde professionnel agricole. Et donc cette vision agrarienne renvoie à la nature comme loi naturelle, ce qui justifierait une hiérarchie sociale traditionnelle. Et je peux notamment citer ce texte qui parle de lui-même, des moines de Solesmes, qui en 1960 publie un petit ouvrage sur les enseignements pontificaux à l'usage des agriculteurs. Et donc je cite « Par le contact qu'elle assure avec la terre qui ne trompe pas, avec la nature qui parle de Dieu, par le milieu familial où elle se déroule, la vie du cultivateur réalise les conditions de travail les plus conformes aux exigences naturelles, et elle peut être, pour tout le secteur social, en même temps qu'un élément de stabilité, un vrai modèle. » Donc défense d'un ordre traditionnel et hiérarchique qui est repris par les notables et par l'élite traditionnelle du monde agricole. On peut souligner aussi que cette vision la plus agrarienne est la première à récupérer des éléments, des arguments dans la pensée écologiste d'Amérique du Nord à cette époque, les années 60. Donc. Deuxième idée, troisième point pour ce panorama intellectuel, c'est l'idée importante que le marxisme hétérodoxe qui se déploie et qui influence l'agriculture à partir des années 70 peut être considéré comme une synthèse à l'usage des agriculteurs, synthèse qui, bien sûr, touche les agriculteurs à travers deux vecteurs, là aussi, que sont d'abord le christianisme de gauche, avec une influence du marxisme sur la foi, et puis l'influence d'une économie rurale qui, à l'époque, se redéploie et est largement dominée par des théories marxistes, mais un marxisme hétérodoxe. Et notamment Claude Servolin, qui écrit dans un article fameux de 1972, qui reconnaît donc, je cite, « Ce sont souvent les tenants les plus réactionnaires du fondamentalisme agraire qui ont le mieux compris les mécanismes de la petite exploitation. » Et à quoi il fait écho ici? Il défend en fait l'idée que la nature impose effectivement une rationalité particulière à l'agriculteur et que c'était une idée agrarienne, il le reconnaît, mais qu'en même temps, ça peut être aussi une idée progressiste, toute théorie qu'il va essayer de développer. Donc, selon cette vision marxiste, cette synthèse marxiste teintée de christianisme, la nature est considérée comme l'espace non aliéné de la culture, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau économique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que, bien sûr, ces trois visions de la nature influencent le mouvement paysan, mais que les agriculteurs paysans que j'étudie moi, enfin que j'ai rencontrés, ce qu'ils mettent en avant d'abord, ce n'est pas tant un respect de la nature qu'une éthique de la vie plutôt que de la nature. Donc premier point qu'on peut souligner, point intéressant. Et deuxième argument que j'aimerais souligner, c'est le fait que, selon moi, pour comprendre les tensions qui recouvrent cette éthique de la vie, donc pour comprendre les tensions qui existent dans leur rapport aussi pratique à l'activité agricole et donc à la nature, on peut essayer de prendre l'angle de leur rapport au catholicisme et leur rapport aux définitions catholiques de la nature. Alors, un premier profil, alors bien sûr, ici, je vais vite, donc ils m'excuseront, mes enquêtés m'excuseront de peut-être simplifier leur parcours. On peut distinguer toutefois un premier des agriculteurs qui sont particulièrement influencés par l'action catholique. Donc ces agriculteurs souvent catholiques pratiquants, catholiques d'ouverture, je précise, proches encore aujourd'hui, encore actuellement, de l'action catholique rurale. Et donc leur rapport à la vie et à la nature est dans les grandes lignes celui de l'action catholique qui, depuis les années 60, invite à investir la vie, d'abord dans sa dimension sociale. Et on peut d'ailleurs encore lire sur le site internet de Chrétiens dans le monde rural, donc l'action catholique rurale adulte, l'explication qui suit. S'intéresser à l'homme et participer à la vie sont des exigences pour un chrétien. Nous voulons une spiritualité en prise directe avec le concret. La rencontre de Dieu passe par la rencontre des hommes, car tel est le chemin original ouvert par Jésus. L'ouverture aux autres construit et fait grandir la relation à Dieu. Vivre la dimension spirituelle est déjà un engagement dans le monde à travers l'action, etc., etc. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est que l'ouverture à la vie est d'abord conçue comme une ouverture au monde social. Et le rapport à la vie s'intéresse d'abord au rapport au monde social et, par analogie, s'oriente vers le respect de la nature. Donc, c'est parce que la nature est importante à respecter dans les relations et dans les situations sociales qu'elle implique qu'il faut y accorder de l'importance particulière. Et on peut souligner que ces agriculteurs sont souvent assez sceptiques par rapport à l'agriculture biologique, puisqu'ils travaillent beaucoup avec l'idée qu'ils sont responsables de nourrir le monde en tant qu'agriculteurs. Deuxième rapport, c'est celui de l'agriculture biologique vécue comme mise en cohérence avec une foi catholique plus classique. Ici, ce sont plutôt des catholiques d'ouverture, mais non influencés par l'action catholique, qui soulignent l'importance de l'agriculture biologique, qui souligne aussi l'importance de légiférer, de normaliser, donc de produire des normes sur l'agriculture qu'il faut promouvoir, et qui vivent le passage à l'agriculture biologique comme une mise en cohérence avec des valeurs religieuses qui sont alors redécouvertes et valorisées à partir d'un bien-être physique et moral. Un troisième rapport serait celui de la quête de soi comme demande de nature selon une foi catholique renouvelée. Ici, on trouve plutôt des croyants très pratiquants, marqués par une dimension émotionnelle de la religion. Donc, on trouve un certain lien avec aussi le renouveau charismatique. La piété se vit comme le désir d'intégrer un ordre, avec une importance toute particulière accordée à la temporalité rituelle. Et bien sûr, l'agriculture biologique est plébiscitée. Et la nature est vue comme un ordre harmonieux auquel il faudrait se plier, je cite, afin d'être réellement soi. Et les ritualités et les normativités religieuses et naturelles se répondent et se rejoignent. Et un dernier parcours, très vite, c'est celui de l'héritage des gens qui ont radicalisé leur héritage d'action catholique et qui sont sortis de l'institution, donc qui sont aujourd'hui non pratiquants. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'ils sacralisent, eux, la vie en tant que principe d'ouverture immanent hors de toute transcendance. Quelques remarques donc conclusive sur ces parcours et leur rapport avec une vision catholique de la nature. Bien sûr, il faudrait préciser ces parcours, il faudrait amener des critères sociaux et économiques, l'importance des contextes locaux, etc., etc. Cependant, je pense qu'on peut distinguer deux pôles idéaux typiques dans les pratiques écologistes qui correspondent, selon moi, dans les grandes lignes, aux deux ethos catholiques dont parlaient déjà Ladrière, Isambert et Ternoir à propos des débats sur l'avortement au début des années 70. D'un côté, la nature comme principe d'ouverture, d'un autre côté, la nature comme principe d'ordre. La nature comme principe d'ouverture, d'abord, à l'image de ce que Jean-Marie Donegani, par exemple, remarque pour la croyance religieuse contemporaine, je pense que cette perception est dominante chez les agriculteurs paysans que j'ai rencontrés. Avec la victoire, selon Jean-Marie Donegani, victoire liée à un éthos démocratique, la victoire d'un principe de vérité-cohérence sur le principe de vérité-correspondance. Pour les paysans que j'ai rencontrés, il y a une importance affirmée et réaffirmée de la liberté humaine, de la responsabilité, de l'investissement dans le monde, bref, de tous les mots d'ordre qu'on retrouvait déjà dans l'action catholique. Cette idée d'une vérité-cohérence se décline à l'échelle individuelle, est vrai ce qui me permet d'organiser toute ma vie selon le même principe, mais aussi cette vérité-cohérence est validée de façon pragmatique, est vrai ce qui me fait du bien, ce qui a bon goût, ce qui me donne une bonne santé, etc. Donc il y a là des phénomènes de symbolisation et de subjectivation de la croyance religieuse. Mais pour finir, j'aimerais souligner aussi que la dimension critique de l'écologie renvoie à deux sous-attitudes différentes, qui sont là aussi des idéotypes, donc il faut prendre de manière, bien sûr, comme des illustrations. Ces deux sous-attitudes différentes sont d'abord l'idée, d'un côté l'idée que l'ordre social peut naître spontanément de l'ouverture, donc on retrouve là un idéal libertaire, avec des principes théologiques qui tendent complètement vers l'immanence, idéal libertaire qui critique le libéralisme en tant que défaut de liberté, et donc une critique proprement politique. D'un autre côté, on trouve plutôt une vision de l'ordre social qui est liée à la traduction de l'ouverture en normes sociales claires, donc un idéal qui critique le libéralisme en tant que, quelque part, excès de liberté, donc critique qui se rapproche plus d'une critique morale et métapolitique. Et d'ailleurs, cette critique de l'excès de liberté, de l'aspect désordonné de nos vies, se traduit par la réhabilitation d'un cadre collectif affirmé. Donc, c'est chez certains, on retrouve la défense, la volonté, le désir que soit mis en place un cadre légal précis, qui permet de définir ce qu'est une bonne agriculture. Et on trouve aussi la volonté d'affirmer un cadre éthique qui tend de façon, selon moi, subjectivée à réhabiliter l'idée d'une éthique réaliste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle ce que l'on doit faire correspond à l'existence d'un principe normatif objectif, métasocial. Ici, l'idée de la nature comme principe objectif et normatif, selon moi, réaffleure, sans toutefois être majoritaire, sans toutefois être affirmé. Je vous remercie.